on va vous présenter aujourd'hui la domestication des plantes. L'origine de la domestication des plantes est parallèle à celle des animaux. Elle est liée à la naissance de l'agriculture il y a environ 12 000 ans, qui a permis, lors de la révolution néolithique, la transition d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société agricole sédentarisée. Beaucoup pensent que l'agriculture fut un bienfait immédiat et que, dû à son apparition répétitive à différents endroits du globe, notamment dans le croissant fertile et en Chine, ce fut un progrès énorme et incontestable pour l'homme. Contrairement à cela, la vérité est tout autre. En effet, il faut comprendre que chasseur-cueilleur, c'est environ 3 heures de travail pour 9 heures de repos, temps pouvant être dédié à d'autres activités. Tandis qu'un fermier doit constamment travailler la terre. Il doit semer, sarcler, labourer, récolter. Il ne faut pas oublier que plus on s'en occupe, plus on doit l'entretenir, et plus les plantes deviennent dépendantes du fermier. Et ainsi, le fermier doit en faire toujours plus. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes obligés de semer les graines, car elles ne peuvent plus le faire naturellement grâce au vent, par anémochorie, du fait de leur poids trop important. Il faut aussi prendre en compte le mode de vie du chasseur-cueilleur nomade. Il suit les troupeaux et donc souvent des terres plus fertiles, qui permettent une meilleure cueillette, avec des rendements très avantageux. Il n'était pas dépendant de la météo, il suivait simplement les troupeaux. Le fermier, qui lui est sédentarisé, se soumet donc à la météo de l'endroit, à la saison sèche ou à l'hiver. En fonction des régions, la production devient donc moins certaine. De plus, il est aussi soumis à la qualité de la terre. Forcément, les premiers qui ont commencé à planter bénéficient d'une plus grande fertilité des terres. Mais la fertilité se perd plus on travaille la terre. La domestication des plantes a du coup été assez contraire à la logique de rendement et d'utilité. Mais étonnamment, on retrouve énormément de régions qui, environ vers la même époque, ont commencé à développer l'agriculture. Cette domestication a donc commencé simultanément à différents endroits de la Terre, malgré leur séparation géographique, malgré le fait que les chasseurs-cueilleurs étaient plus robustes et en meilleure santé. Ils n'avaient pas de liaison avec les bovins ou le bétail. Comparé aux fermiers, qui étaient souvent, de ce qu'on a pu voir en comparant les squelettes, plus fragiles, plus petits, plus trapus et souvent beaucoup plus en contact avec des maladies à cause de l'utilisation du bétail dans l'agriculture. Qu'est-ce qui a favorisé l'agriculture ? L'agriculture avait quand même de nombreux bénéfices. Le premier et principal atout qui est encore utilisé aujourd'hui est que la domestication des plantes permet une production de masse et avec le développement des marchés, cela permet d'avoir un meilleur revenu. En effet, le chasseur-cueilleur permettait de se satisfaire lui-même et sa famille, mais c'était plus compliqué de le faire à une plus grande échelle. Il y a aussi des avantages à la sédentarisation, qui est donc incompatible avec la chasse et la cueillette. Ainsi, l'origine de la domestication des plantes est bel et bien l'agriculture. Et malgré le fait que ce soit une des pires erreurs de l'humanité, comme certains pourraient le dire, elle fut nécessaire pour subvenir aux besoins d'une population qui ne cesse de croître. On observe le début d'une pensée plus large et non centrée uniquement sur soi-même. Les chasseurs-cueilleurs ne pouvant satisfaire une communauté ou une population, se sont mis à l'agriculture et à la domestication des plantes pour produire en masse.
Nous allons parler de la diversité des plantes domestiques. Donc tout d'abord, la domestication, c'est le processus de sélection artificielle de caractère phénotypique réalisé par l'homme à partir de plantes sauvages, qui est à l'origine des premières espèces cultivées. Ces espèces cultivées ont été sélectionnées artificiellement à partir des espèces sauvages, dans des régions appelées foyers de domestication, qui diffèrent selon l'espèce cultivée concernée. Les caractères que l'homme a sélectionnés sont ceux qui facilitent la culture, la récolte et l'utilisation de l'espèce cultivée. Chez le blé, il s'agit de la solidité du rachis, de la nanité des grains, de la synchronisation de la maturation et de la taille des grains. Il y a différents types de caractères pouvant faire l'objet d'une sélection phénotypique. Donc soit le caractère doit être visible ou pouvoir être sélectionné involontairement par l'agriculteur, soit le caractère doit être doté génétiquement pour être transmis à la descendance. Certains caractères liés à la domestication ont pu être sélectionnés par l'homme. Donc la taille et le nombre de grains, exemple de sélection phénotypique volontaire, la solidité du rachis, exemple de sélection phénotypique involontaire, parce que la solidité du rachis est transmise à la génération suivante, car les grains venant de rachis solides sont plus fréquemment récoltés, puisqu'elles ne peuvent pas tomber seules du fait de leur poids. Donc nous prenons pour exemple l'ancêtre du maïs, c'était la théosinte, mais suite à la culture de l'homme, et ça s'est transformé avec des caractéristiques beaucoup plus importantes pour la nutrition de l'homme, et ça a fini par devenir du maïs. Donc pendant le processus de domestication, l'homme identifie dans les populations sauvages les individus qui présentent les caractéristiques intéressantes pour la culture. Solidité du rachis, nudité des grains, taille des grains pour le blé par exemple, comme je l'ai dit auparavant. En récoltant les grains produits par ces individus et en les utilisant comme semences, ils modifient de génération en génération les caractéristiques des espèces cultivées. Ils présentent finalement un ensemble de caractères utiles à l'homme. À partir d'espèces domestiquées, la sélection artificielle exercée par l'homme peut se poursuivre. On peut ainsi, pour une même espèce domestiquée, avoir de nombreuses variétés qui présentent des caractéristiques culturelles, nutritionnelles différentes. Ces différentes variétés peuvent être adaptées à des climats différents, qu'à des maïs, ou alors des propriétés nutritionnelles et des conditions de culture diverses qu'à des choux. Elles sont le produit par ces variétés anciennes de l'histoire agricole locale.
Donc en petit 3, nous allons voir comment mettre au point de nouvelles variétés de plantes. Depuis les années 1910, de nouvelles techniques ont vu le jour afin d'obtenir des plantes plus résistantes aux maladies, aux parasites, de meilleure qualité et en plus grande quantité, afin de répondre aux besoins toujours plus importants de la population croissante. Ainsi, on privilégie les caractères les plus intéressants pour répondre à ces enjeux. On parle de sélection massale. La création de ces nouvelles variétés utilise la même technique que l'évolution biologique, c'est-à-dire qu'une sélection des individus qui possèdent les allèles les plus intéressants est opérée. Ces individus deviendront donc les parents d'une nouvelle variété comportant plus d'avantages. Il existe de nombreuses techniques qui permettent de créer de nouvelles espèces et qui reposent sur des hybridations et sur les biotechnologies. Donc premièrement, nous allons voir les techniques de croisement et d'hybridation. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'hybridation interspécifique, qui est une technique qui consiste à croiser deux parents de lignée pure, donc homozygotes, génétiquement différents, avec un génotype ou d'espèces différentes, pour obtenir des individus hybrides. C'est un processus de fécondation croisée, où l'ovule d'une espèce va être fécondé par le pollen d'une autre espèce, engendrant ainsi la création d'un hybride qui possède les caractères génétiques recherchés, homozygotes, qui proviennent des deux espèces. Donc deuxièmement, nous allons parler de l'hybridation intraspécifique, qui est une technique qui consiste à croiser deux parents, encore une fois, de lignée pure de la même espèce, voire même de deux clones. Deux parents qui vont donc présenter des avantages génétiques différents sont alors choisis. La variété obtenue possédera donc des caractères génétiques optimaux, utiles aux populations humaines. Cependant, ces deux processus sont relativement lents et conduisent à des semences de variétés assez hétérogènes, dites paysannes. On parle de sélection empirique, cette sélection était surtout utilisée au tout début de l'agriculture. Donc en petit b, nous allons parler des biotechnologies dans l'amélioration des plantes. Les techniques biochimiques, comme la transgénèse, diffèrent des techniques d'hybridation et de croisement. En effet, de l'ADN codant pour un gène d'intérêt de la plante est introduit dans une plante dont on veut améliorer les caractères génétiques. La transgénèse a été développée à partir des années 1970 et permet d'obtenir de nouvelles variétés de plantes de manière plus puissante et plus rapide. La transgénèse se divise en 6 étapes clés. Donc tout d'abord, il y a l'identification d'un gène d'intérêt chez un organisme donneur. Puis, il faut isoler le gène codant pour la protéine et le laisser se multiplier. Ensuite, il faut réaliser un transgène, donc c'est-à-dire insérer le gène d'intérêt chez un organisme receveur via un vecteur. Puis, il faut sélectionner les cellules végétales transformées qui expriment le gène introduit. Ensuite, il faut régénérer l'organisme génétiquement modifié, puis enfin produire l'organisme génétiquement modifié. Donc pour mieux expliquer cette transgénèse, nous allons prendre l'exemple du doryphore qui s'attaque au plant de tomate. Donc on a transféré le gène d'intérêt identifié dans un génome bactérien dans une autre bactérie qui joue le rôle de vecteur, donc la bactérie Agrobacterium tumefaciens. On utilise cette bactérie en particulier car elle se développe naturellement dans le sol et infecte les plantes blessées. Une autre technique de création variétale repose sur la méthode d'édition génomique. C'est la technique CRISPR-Cas9. En 2012, deux chercheuses, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, ont découvert qu'il était possible d'éditer n'importe quel ADN, soit de le couper, de le modifier et même de le remplacer. Le système CRISPR-Cas9 est un nouveau système simple, rapide et efficace pour couper l'ADN à un endroit précis du génome dans n'importe quelle cellule. Il est constitué d'un ARN guide qui cible une séquence d'ADN particulière associée à l'enzyme Cas9 qui, comme des ciseaux moléculaires, va couper l'ADN. Ainsi, les scientifiques utilisent CRISPR pour introduire un trait utile dans une plante cultivée. Par exemple, cette teneur en alpha-gliadine, protéine de la famille du gluten, retrouvée en grande quantité dans la farine de blé. De cette manière, les patients touchés par les maladies coliaques auto-immunes, étant intolérants au gluten, peuvent ainsi modifier leur alimentation sans pour autant arrêter de pouvoir utiliser de la farine. Cette technique soulève cependant d'importantes questions éthiques. Donc en dernière partie, nous allons parler de la perspective d'une agriculture durable. Les techniques utilisées par l'agriculture productiviste inquiètent aujourd'hui les scientifiques pour les dégâts environnementaux et sur la santé qu'elles causent. L'ère de l'après-guerre, de la rentabilité et de la grande production doit être révolue pour une agriculture plus locale et avec une utilisation réduite des produits chimiques et des intrants. Des organismes de recherche comme l'INRA œuvrent pour cela, mais ils garantissent également une diversité renouvelée des variétés cultivées et une maîtrise de la production des semences afin d'éviter un affaiblissement de la diversité génétique des plantes.
La domestication des plantes, des premières récoltes néolithiques aux ciseaux moléculaires en laboratoire, a toujours consisté à privilégier certaines caractéristiques héréditaires plutôt que d'autres. Mais plus encore, la domestication des plantes s'est accompagnée d'une réelle perte globale de leur diversité génétique. En effet, il existe une apparente contradiction entre l'augmentation de la diversité allélique au cours du processus de domestication, l'augmentation du nombre de variétés et l'appauvrissement génétique des espèces cultivées. Pour comprendre cette contradiction entre l'augmentation de la diversité allélique et l'appauvrissement génétique des espèces cultivées, prenons l'exemple de l'évolution de la diversité allélique au cours du processus de domestication du riz au fil des années. En effet, on estime qu'il existe plus de 150 000 variétés de riz qui diffèrent selon la couleur, la forme et le comportement gluant ou non du grain de riz. C'est cette dernière caractéristique qui est due au type d'amidon contenu dans le grain, mais aussi à la teneur en amylose et qui est sous le contrôle du gène WAX codant pour l'enzyme GBSSI. Or, lors du processus de domestication en Chine du Nord et Chine du Sud à partir du grain de riz sauvage WAX LUW, ce dernier a muté plusieurs reprises pour donner trois différentes espèces, le riz WAX B, le riz WAX A et le riz WAX, qui sont des types de riz moins riches en amylose et donc plus gluants. Or, chacune de ces espèces a été sélectionnée par l'homme en fonction de la demande. Par exemple, le riz WAX, qui est très gluant, est présent seulement au Japon et en Corée, alors que le grain WAX B n'est retrouvé qu'en Chine du Nord. Ainsi, par cet exemple, nous pouvons souligner le fait que la domestication entraîne une diversité allélique par la mutation et qui est sélectionnée par l'homme en fonction de ses besoins, mais qu'au final, ces espèces sont globalement moins diversifiées que leurs parents sauvages, le riz de type WAX LVW. Ainsi, les plantes cultivées, elles se distinguent des plantes sauvages par des phénotypes favorables à leur utilisation par les êtres humains. Rendement des parties récoltées élevé, port facilitant la culture et la récolte, non-dispersion des parties récoltées ou encore un mécanisme de défense diminué. Certains auteurs parlent de syndrome de domestication, auquel on peut ajouter les caractéristiques suivantes, précocité, diminution ou perte de dormance des graines. Ces traits caractéristiques, liés à des allèles provenant des mutations, mettent des plantes en position de dépendance à l'espèce humaine pour leur dispersion et en position de faiblesse vis-à-vis d'éventuels compétiteurs dans un écosystème. Aujourd'hui, la mise en place de nombreuses variétés, elle est toujours très active et a pour objectif d'obtenir de nouveaux caractères intéressants, tels que de nouveaux caractères comme le comportement gluant ou non du grain de riz. mais surtout la domestication des plantes actuellement vise à répondre aux problématiques actuelles et donc à développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. La recherche dans ce milieu est donc tournée vers une réparation des conséquences néfastes de la domestication grâce à une valorisation de ressources génétiques et par la mise au point de nouvelles méthodes de culture.
Quels sont les liens entre régime alimentaire et évolution humaine ? On observe en premier lieu un caractère mutualiste de la relation espèce humaine-plante cultivée, mais aussi un phénomène de coévolution. La sélection exercée par l'être humain sur les plantes cultivées au cours des siècles s'est établie au sein d'une relation mutualiste, dont les plantes et les êtres humains retirent chacun un bénéfice. La domestication des plantes a des conséquences importantes dans l'histoire des populations humaines, en contribuant notamment à la modification de leur mode de vie. Ils sont passés en effet de tribus de chasseurs-cueilleurs à des communautés d'agriculteurs, mais aussi à la sélection de certains caractères humains. Par exemple, les populations humaines présentent une grande variabilité interindividuelle en ce qui concerne la quantité d'amylase salivaire, une enzyme hydrolysant l'amidon en maltose. On observe que les individus ayant un régime riche en amidon possèdent davantage de copies du gène de l'amylase salivaire, que l'on nomme AMI1, que des individus ayant un régime pauvre en amidon, ce qui explique les différences quantitatives de cette enzyme. Ainsi, lorsque l'alimentation est riche en amidon, un nombre élevé de copies du gène de l'amylase salivaire conférerait un avantage sélectif car ces individus seraient plus aptes à les digérer et à en tirer les nutriments essentiels. De la même façon, la proportion de l'haplotype D, portant les allèles des enzymes FADS 1 et 2 et favorisant la transformation des acides gras oméga 3 et oméga 6, présente des adaptations selon les régimes alimentaires. De plus, le régime alimentaire peut provoquer des modifications au niveau physiologique. Par exemple, des chercheurs ont observé une modification de la morphologie de la mâchoire inférieure. Il s'agit du lieu d'insertion des muscles masticateurs qui permettent de faciliter la mastication des aliments. Ces deux exemples illustrent ainsi une évolution culturelle, ici de nature agricole et alimentaire, qui est à l'origine d'une pression de sélection et d'une évolution génétique humaine. Les relations mutualistes entre les populations humaines et les plantes domestiquées se caractérisent donc par une coévolution, où l'espèce humaine favorise l'essor des plantes cultivées, tandis que ces plantes contribuent au développement des populations humaines. Les défis de l'agriculture contemporaine et les enjeux de la domestication des plantes. Selon le rapport de la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, la population mondiale devrait augmenter de plus d'un tiers, soit 2,3 milliards de personnes entre 2009 et 2050. L'urbanisation devrait aussi se poursuivre à un rythme accéléré, les zones urbaines représentant 70% de la population mondiale en 2050, réduisant ainsi les surfaces agricoles exploitables. Les projections montrent que, pour nourrir une population mondiale de 9,1 milliards de personnes en 2050, il faudrait augmenter la production alimentaire globale de quelque 70% entre 2007 et 2050. La production dans les pays en développement devrait presque doubler. Cela implique des augmentations significatives de la production de plusieurs produits de base essentiels. La production annuelle de céréales, par exemple, devrait augmenter de près d'un milliard de tonnes, la production de viande de plus de 200 millions de tonnes pour atteindre un total de 470 millions de tonnes en 2050. Pour nourrir la population mondiale de manière adéquate, il faudrait également produire les types d'aliments qui font défaut pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nourrir cette population grandissante tout en limitant l'impact environnemental représente ainsi le plus grand défi et enjeu de l'agriculture contemporaine. En effet, grâce à la domestication des plantes, le travail des agriculteurs s'est facilité et a entraîné une certaine dépendance des agriculteurs vis-à-vis des semences commerciales avec une utilisation croissante de pesticides et d'engrais. En effet, les variétés de plantes cultivées actuelles, issues d'un long processus de sélection, ont une faible diversité allélique, qui les rend souvent plus vulnérables que leurs ancêtres, notamment pour les caractères non sélectionnés au cours du processus d'amélioration, tels que les résistances à des maladies non endémiques. En effet, ceci leur confère une fragilité vis-à-vis des aléas et nécessite une compensation par des pratiques culturales parfois dommageables pour l'environnement et la santé humaine, telles que l'utilisation massive de pesticides et d'engrais. Ainsi, les surfaces de production ne cessent de diminuer à cause de l'urbanisation, de la dégradation des sols et du changement climatique. Il faut donc trouver des solutions pour produire plus,
en améliorant les rendements, et dans des espaces plus restreints. Les avancées génétiques permettent d'envisager de nouvelles méthodes de culture plus respectueuses des sols et présentant de meilleurs rendements en créant de nouvelles variétés par croisement entre différentes espèces ou par mutation induite comme avec la mise en place des nouveaux OGM dont la réglementation est très stricte et surveillée pour prévenir au maximum les dérives.